Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Avec jusqu'à 19h notre débat politique avec William Tay, bonsoir,
bonsoir,
du think tank Le Millénaire, et bonsoir à Edouard Dorian Cipel.
Bonsoir Pierre.
De Territoire de Progrès. Tiens, je vais prendre un peu le contre-pied. Ce soir, il y a une finale de la Ligue des Champions et il paraît que vous êtes chacun opposé.
Oui, oui.
Qui est pour Liverpool, qui est pour le Real?
Moi, je suis pour Liverpool parce que le Real Madrid s'est déjà pris la plus grande clim de l'histoire avec sur le transfert de Kylian Mbappé et j'espère qu'ils vont avoir la deuxième grande désillusion ce soir. Ce sera notre vengeance chez nous à Paris et ce sera bien fait pour eux.
Eduardo,
cette bonne guerre, j'aime beaucoup Liverpool, mais je serai pour le Real Madrid ce soir et je ne serai pas seul. Mon fils et moi-même seront pour le Real Madrid. D'ailleurs, c'est mon fils qui me rappelait ce matin en allant au foot. On est pour le Real, papa, parce que le Real a battu notre équipe, le PSG, donc on soutient ceux qui nous ont battus. Au moins, on pourra dire qu'on a été battus par les futurs champions.
On peut dire, William T, que vous n'êtes pas très patriote, alors.
Si, moi, je suis patriote, mais je
indirectement.
Pense que, en termes de valeur et en termes de fond de jeu, quand on va voir un match à Anfield et qu'on voit cette marée humaine rouge qui soutient son équipe par rapport au jeu proposé par Klopp, on peut espérer que Liverpool l'emporte.
Voilà. Bon, en tout cas, on peut dire que du côté de la scène politique, pour l'instant, c'est pas aussi chaud bouillant que dans les rues de Paris en ce moment où on a les Reds qui défilent. On l'a vu tout à l'heure dans le journal
partout,
avec.
Il y a du rouge partout, c'est joli.
Ouais. Oui, il y a du rouge partout, en effet. Il y a même, alors à part ce coup de fil effectivement qui a eu lieu tout à l'heure. Coup de fil commun entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz à Vladimir Poutine pour essayer de faire avancer la situation une nouvelle fois. Un silence assez assourdissant du côté du président de la République, William T.
Ce qui est surprenant depuis son élection, qui remonte maintenant il y a plus d'un mois, c'est qu'il a déjà mis 4 semaines à composer un gouvernement qui n'est pas forcément très novateur et qui est forcément très classique. Et donc, du coup, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps à nommer un gouvernement comme celui-ci. Et il n'est pas forcément dans l'action, contrairement à ce qu'il avait proposé, notamment le soir du second tour, en parlant d'une rénovation politique, une refondation politique et un grand changement très rapide, notamment pour répondre à plusieurs questions précises sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'inflation. On a un gouvernement qui est plutôt passif.
Vous avez un projet de loi qui est en route.
Non, effectivement, mais d'habitude, on s'attendait à ce qu'Emmanuel Macron, normalement, souvent à l'offensive sur la plupart des sujets, qui prend les sujets à bras le corps, là est plutôt en retrait, plutôt passif sur la plupart des événements politiques.
Edouard Dorian Cipel.
Non, mais je crois que le président, il a pris le temps de former son gouvernement, d'abord la première ministre et ensuite le gouvernement, selon les règles de la Constitution. Et peut-être que c'est toujours un petit peu plus difficile quand c'est le second mandat. On a perdu l'habitude parce que jamais personne n'a su gagner en se succédant à soi-même. Je rappelle qu'Emmanuel Macron est le seul président à avoir été réélu avec une majorité sortante.
Sans cohabitation.
Le dernier qui a fait ça sous la Ve République et encore, c'était le général de Gaulle parce qu'en 62, il n'y avait pas encore.
Mais c'était un cas particulier. Oui.
Bon, donc c'est assez unique et je pense que c'est plus difficile parce que vous devez gérer ceux qui vous ont suivi avant, le renouveau et la cohérence de tout ça. Et je pense qu'il a réussi. Il a réussi avec 3 marques qui caractérisent, me semble-t-il, ce gouvernement: la cohérence, l'expérience et le renouveau. Et puis maintenant, il y a des élections.
Mais qu'est-ce que vous avez tous dans la Macronie à employer 3 termes là? C'est pareil. Elisabeth Borne, elle a sorti. Qu'est-ce que c'était? Efficacité, résultat, rapidité. Vous avez tous pour ordre de mettre 3 mots les uns derrière les autres.
C'est un tropisme de mes dissertations.
Ils sont des grands mots quand même, Édouard Dorian.
Non, mais c'est sans doute un tropisme des études de philosophie. Il fallait faire des dissertations en 3 parties.
Des antithèses.
Bon, voilà, c'est l'esprit français.
Oui, peut-être. Non, mais enfin, cela dit, au-delà de ça, c'est quand même. Vous comprendrez que ce sont des grands mots. On n'avance pas vraiment dans le débat.
Les mots et rentrer dans le détail. Mais c'est vrai, je vous en donne 3, mais je crois vraiment on pourrait débattre la cohérence.
Bah,
c'est la cohérence de ce gouvernement qui tient la route dans la cohérence des personnalités qui occupent les postes et les fonctions. Il y a de l'expérience parce que vous avez des personnalités qui étaient déjà là avant et d'ailleurs au même poste. Je pense à Bruno Le Maire à l'économie et à Gérald Darmanin à l'intérieur. Et puis vous avez du renouveau avec en particulier Pape Ndiaye. Donc cohérence, parce que c'est quand même le projet du président qu'il s'agit d'appliquer et de mettre en œuvre. Expérience, parce qu'il y a quand même des gens qui sont solides et qui ont le métier déjà éprouvé. Et puis le renouveau, parce qu'il y a de nouvelles têtes, et de nouvelles têtes qui, à mon avis, vont dans le bon sens, comme Pape Ndiaye, qui est un enfant de la République, de la méritocratie républicaine.
À la seule évocation de Pape Ndiaye, j'ai cru que William T. allait tomber de sa chaise.
Ah bah oui, effectivement, moi je... Moi, je pense que c'est une erreur d'Emmanuel Macron, qu'il avait fait un choix qui était très courageux en nommant Jean-Michel Blanquer en 2017, ce qui était un très bon choix, notamment sur deux grandes questions, sur la question de la laïcité dans les écoles et sur les valeurs républicaines, et le deuxième point sur la méritocratie. Ce qu'avait fait Jean-Michel Blanquer, notamment sur la réforme du bac, sur la réforme du collège, sur la réforme du primaire, allait dans le bon sens, notamment parce que c'était une rupture par rapport à ce que proposait Najat Vallaud-Belkacem sur la question éducative. Quand vous regardez les grands modèles éducatifs français ou dans le monde ou en Asie, vous voyez que ceux qui dominent les classements PISA, c'est l'Asie de l'Est. Et pourquoi est-ce que l'Asie de l'Est domine ? Parce qu'ils ont centré leur projet sur la question méritocratique et sur la question de la transmission du savoir. Quand vous mettez Pap Ndiaye à l'éducation nationale, vous rompez avec la politique de Blanquer, parce que Pap Ndiaye est un promoteur de ce qu'on appelle la discrimination positive. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la question méritocratique au cœur du projet républicain, vous dites qu'il y a des échecs structurels, notamment sur les questions d'inégalité sociale, et donc vous êtes là pour équilibrer l'école comme équilibrateur, plutôt que l'école comme élévation des individus. Et je pense que c'est une erreur fondamentale d'Emmanuel Macron. Ensuite, sur l'ensemble des points, effectivement, il y a de la cohérence, mais il y a surtout de la clarté d'Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'avant, Emmanuel Macron, c'était un peu le candidat du en même temps. Il piquait un peu des mesures de centre-gauche, des mesures de centre-droit, en apportant une forme de synthèse. Là, maintenant, il définit un projet qui est clair pour le macronisme, c'est-à-dire que le macronisme a vocation à durer au-delà d'Emmanuel Macron, mais sur sa ligne, je pense qu'il commet des erreurs, parce qu'il s'adapte au monde anglo-saxon. Ça veut dire que le Emmanuel Macron qu'on a maintenant, au lieu d'être une synthèse française, ce qu'on évoquait ensemble, Édouard Durand-Sipel, entre Mitterrand et Charles de Gaulle, Emmanuel Macron est quasiment un candidat démocrate à l'américaine, comme ce qu'on peut retrouver avec Justin Trudeau ou avec Barack Obama et Joe Biden.
Édouard Durand-Sipel.
Moi, j'ai une appréciation très différente. Je pense qu'au contraire, Emmanuel Macron est donc quelque chose qui est bien ancré dans l'esprit français. Alors, en même temps, il est un homme de son époque, de sa génération, et dans un moment en plus inédit, non seulement de l'histoire de la France, mais de l'Europe et du monde. On a une configuration tout à fait nouvelle. On a vécu une pandémie historique. On a aujourd'hui la guerre de retour en Europe. Et pour revenir simplement à nos critères français, je crois qu'on se trompe en plus sur ce que représente Pap Ndiaye. Il faut le laisser d'abord prendre ses marques.
Et on parle beaucoup de lui alors qu'il a à peine...
Il est le pur produit de l'école,
dans son ministère.
De l'école républicaine. Mmh. Il est le pur produit de la méritocratie républicaine. Il est l'enfant de l'excellence française, de l'école, de son université. C'est un ancien élève de l'école normale supérieure.
Oui, il a grandi dans un milieu assez favorisé.
Et peut-être, mais en tout cas, il en a su tirer tous les bénéfices du point de vue de sa formation.
C'est un
historien, c'est un intellectuel engagé. Je ne crois pas du tout qu'il soit dans cette ligne qu'on voudrait lui faire adopter, d'un truc qui tendrait vers l'américanisme ou je ne sais trop quoi. Il s'intéresse à des questions qui étaient des angles morts de la société française de l'histoire de France. La question liée à l'immigration, la question de... Et son livre principal, ou l'un de ses livres principaux, La Condition Noire, oui. Y compris dans son titre, c'est beaucoup plus proche de Jean-Paul Sartre quand il écrit les réflexions sur la question juive. Le titre La Condition, c'est un mot qui parle. Moi qui suis un ancien étudiant de philosophie, André Malraux, quand il fait La Condition Humaine, c'est pas la race humaine, c'est pas la race noire, c'est pas la communauté noire, c'est pas la minorité noire, c'est pas je ne sais trop quoi, c'est une condition. Il parle d'expérience sociale, il parle d'une réalité qu'il peut connaître et à laquelle il a travaillé, sur laquelle il a travaillé comme historien, que les historiens débattent. Et en tant que ministre de l'éducation nationale, moi j'ai été attentif à ses premiers mots et à ses premiers actes. Les premiers mots ont été pour rendre hommage à Samuel Paty, rappelez-vous, vous en souvenez. Il est aussi dans la foulée, il s'est rendu dans l'établissement où enseignait Samuel Paty. Je pense qu'il veut clairement passer le message. Je suis pas du tout ce qu'on raconte sur moi. Moi, je suis attaché à la République, à la transmission, à notre école telle qu'elle est. Et c'est ça qu'il va essayer de mettre en mouvement maintenant, à lui
d'ailleurs,
de faire ses preuves.
Sur le mot race, je crois savoir qu'il y avait eu des observateurs qui critiquaient le mot race dans un article de la Constitution, et lui justement avait dit qu'il fallait le laisser pour justement peut-être combattre encore mieux les différents thèmes afférents à ce sujet. William T. Certains observateurs disent que finalement Pap Ndiaye il a pas encore commencé, que déjà tout le monde lui tombe dessus. Il y a quand même une part de vérité là-dedans.
Oui, c'est vrai. Non, mais il faut féliciter.
Pas se baser non plus sur un curriculum vitae.
Non, mais il faut féliciter son parcours. C'est toujours bien quand vous avez des profils comme ça qui accèdent aux plus hautes fonctions de l'État. C'est-à-dire que l'État est en train de se moderniser dans sa façon de s'ouvrir à la société civile, et notamment en promouvant des personnes qui sont méritocratiques. Moi, je pense
notamment
que
des universitaires. C'est pas la tradition française. On a des technocrates, des énarques, des politiques, des rarement des universitaires comme dans les autres. d'autres pays occidentaux.
Mais je vais prendre non, mais ça sur le profil en question d'un point de vue carrière, j'ai rien contre lui. Mais par contre, quand on dit qu'on n'a pas le droit de le critiquer en raison de ses positions passées, je vais prendre un exemple qui a notamment eu lieu sur la campagne présidentielle. Lorsque sur la campagne présidentielle, Éric Zemmour a été candidat, on a bien critiqué les propos d'Éric Zemmour, alors que c'était ses propos, oui, notamment de journaliste, oui, d'essayiste, et que c'était pas ses propos de candidat. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire ce qu'on a fait à Pap Ndiaye, ce qu'on a fait à Éric Zemmour? C'est une question de, il faut être juste, il faut être équitable. Et notamment sur la question de Pap Ndiaye, pourquoi est-ce que moi je pose ces questions d'alerte et je profite de votre invitation pour le faire? Parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron est capable de s'adapter à la société, est capable d'écouter les polémiques. On l'a vu notamment sur la question des gilets jaunes, où même si c'était dur au début, au bout de 3 semaines, il a pu changer de ligne. On a vu notamment sur la question de la crise sanitaire, où il était capable d'entendre la société. J'adresse le message suivant à Emmanuel Macron. Il faut pas rompre. Et il faut poursuivre l'engagement qu'il a poursuivi. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'Emmanuel Macron a mis l'école en projet prioritaire sur la refondation de son projet, de son quinquennat. Et donc, du coup, il va construire une nouvelle école sur de nouveaux principes. Psychologiquement, il faut expliquer aux élèves que s'ils veulent réussir, il faut se baser sur le mérite, sur l'effort, oui, et sur le concours et sur la sélection. Et si Emmanuel Macron met ses principes au cœur, eh ben il faudra soutenir Pap Ndiaye dans ses réformes. Mais pourquoi est-ce qu'il met Pap Ndiaye comme il met Catherine Colonna au Quai d'Orsay? Parce qu'il n'est pas là pour réformer. Pour l'instant, il est là pour calmer. Parce qu'il faut expliquer pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron met autant de temps. Si Emmanuel Macron met autant de temps sur la question des réformes et sur la question de la composition du gouvernement, c'est parce qu'il est là pour colmater les brèches et pour éviter notamment que ça chauffe au Quai d'Orsay à cause de la réforme sur le corps diplomatique et parce qu'il sait que Blanquer était impopulaire auprès des syndicats enseignants. Mais est-ce qu'on peut véritablement réformer l'éducation nationale en plaisant aux syndicats enseignants qui ont bloqué toute réforme de l'éducation nationale pendant près de 30 à 40 ans, alors que la France s'écroulait dans les classements PISA?
Il y a une autre réflexion qui se fait à propos de Pap Ndiaye, c'est que il est comme il a le parcours qu'il a, il a les positions qu'il a prises sur le racisme, sur les certaines thèses indigénistes, etc. Et encore, mais est-ce que finalement ça ne sera pas un ministre comme un autre qui obéira à ce que dit Emmanuel Macron? Et certains observateurs prennent pour exemple Nicolas Hulot, qui est arrivé avec énormément de sujets sur la table en disant il faut faire l'hydrogène, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut arrêter les... Et finalement, il est parti parce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait.
Juste une phrase dessus, s'il a nommé Pap Ndiaye, c'est que lui-même a clarifié sa propre ligne. Emmanuel Macron n'a jamais été clair sur est-ce qu'il voulait s'inscrire dans les traditions françaises ou est-ce qu'il copiait l'américanisation de la société, notamment la société multiculturelle. Je pense que la nomination de Pap Ndiaye, le fait que Catherine Vautrin a été éjectée sur les questions sociétales pour mettre Elisabeth Borne, signifie une évolution d'Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il faut alerter sur ce sujet-là, notamment parce qu'Emmanuel Macron a rempli.
Et c'est Catherine Vautrin était contre le mariage homo.
Tout à fait. C'est pour ça que la nomination de Pap Ndiaye est la poursuite du fait que Catherine Vautrin a été éjectée de Matignon. Et ça traduit une évolution de ligne d'Emmanuel Macron. Moi, je pense que sur ce sujet-là, il a fait une erreur et que c'était plutôt la ligne Blanquer qui nous permettra de redresser l'école.
Voilà. J'ai retrouvé à propos du racisme, Édouard Dorian. Vous avez vu quand même mon flottement tout à l'heure. J'ai essayé de retomber sur mes pieds. C'est quand même pas réussi à chaque fois. En plein débat sur le retrait du mot race de la Constitution française, Pap Ndiaye critique la réticence de notre pays à s'attaquer à cette dimension ethnique, y voyant l'influence d'un républicanisme qu'il juge rigide, mais aussi l'héritage colonial et du marxisme. Édouard Dorian Cipel.
Oui, je crois qu'il a l'occasion de pouvoir le préciser, on peut le lire, mais je crois que quelles que soient ces déclarations passées, qui à mon avis s'apparentent absolument pas à aucune forme d'indigénisme, la pensée dite indigéniste, wokisme, c'est tout ça, à mon avis, est très éloigné de sa pensée, qui me paraît beaucoup plus être affirmé par la tradition classique française. Simplement, il met le savoir de la science et de l'histoire au service, justement, de passages de notre histoire ou de notre réalité sociale qui n'était moins connue, qui était davantage cachée. On peut tout à fait s'intéresser à la condition des Noirs en France, à la condition d'un certain nombre de populations, sans pour autant tomber dans une américanisation des esprits ou un wokisme. Et comme ministre, obéir à Macron, pardon, il est président de la République, Emmanuel Macron.
Oui.
Lui, l'arbitre final. Donc,
le moindre de... Obéir n'était pas forcément le meilleur mot.
Il
y a une ligne politique décidée par l'Élysée.
Non, mais je veux dire, c'est comme dans une équipe de football. À un moment donné, il y a une liberté d'action, mais il faut respecter quand même les orientations et l'objectif et la stratégie du coach, en l'occurrence du président. Je crois qu'il ne faut pas faire de faux débats au sujet de Pap Ndiaye. Il faut le laisser réussir. Il a marqué clair son attachement à la République.
De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler quand il aura pris.
Et s'il y a quelqu'un dans la personnalité et le parcours, peut-être d'être permettre d'être attentif, notamment aux conditions sociales de la réussite scolaire. Ça, c'est important et je crois que ça va dans le sens de ce que pense Emmanuel Macron. Macron, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut maintenant poursuivre l'objectif de dédoublement des classes qu'il a organisé dans un premier temps dans les CP, dans les autres classes en primaire. Je pense que ce sont des objectifs tout à fait importants pour l'école, pour la réussite des enfants.
On l'a vu à l'instant avec Sylvain Maillard, qui est candidat aux législatives pour Renaissance. On s'attend, les sondeurs le disent à nouveau, à une abstention complètement folle. Est-ce que c'est pas parce, pour cette idée et pour le coup, personne, enfin, disons que la Renaissance n'est pas d'accord avec certains observateurs qui disent que finalement Emmanuel Macron n'a pas été élu pour ses convictions. Il a été élu par défaut d'une certaine manière. William T.
Moi, c'est mon analyse. Je pense que Emmanuel Macron sait qu'il a été élu par défaut, notamment par opposition et au fait que les Français ne voulaient ni de Mélenchon, ni de Zemmour, ni de Le Pen. C'est le premier point sur l'élection présidentielle. Sur l'élection législative, s'il rentre dans un conflit idéologique, notamment sur la plupart des enjeux, notamment politiques, éducatifs, économiques, il sera minoritaire. Mais par contre, il peut être élu en opposition parce que les Français ne voudront ni d'une majorité menée par Le Pen, ni d'une majorité menée du coup par Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que c'est pour ça qu'il a mis autant de temps à composer un gouvernement. C'est un coup tactique et non pas un coup de politique publique. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron met autant de temps, parce que il faut le rappeler, tant qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il n'a pas pour l'instant les pleins pouvoirs. C'est pour ça que moi je lui accorde le bénéfice du doute sur certains points, parce qu'il ne peut pas pour l'instant agir tant qu'il n'a pas de majorité.
Pourtant, vous disiez à l'instant, William T, que il y a un macronisme qui a été enclenché, qui survivra à Emmanuel Macron. Oui. Donc, finalement, il y a un courant, donc il y a des convictions.
Oui, les convictions d'Emmanuel Macron, moi, je les caractérise comme ça. Il est en train de transformer, il a opéré ce qu'on appelle la transformation du PS sur le modèle de Michel Rocard et, en gros, à l'époque, Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire la deuxième gauche. C'est à peu près ça, le courant de pensée. Là où il y a une difficulté, c'est qu'en fait, il y a des positions qui sont pas très claires. Et je pense qu'il est en train petit à petit de clarifier sur la plupart des sujets. On pouvait croire que sur certains sujets, notamment après le discours des Mureaux et le décès de Samuel Paty, Emmanuel Macron allait embrasser les thèses de la droite républicaine. Finalement, la nomination de Papendia et le refus de Catherine Vautrin l'entraînent dans un progressisme classique qu'on rencontre tel chez Barack Obama, chez Joe Biden, chez Justin Trudeau ou sur les gauches anglo-saxonnes en fait. Et donc Emmanuel Macron est à peu près à la poursuite de cette gauche-là.
D'accord avec ça, Edouard Dorian Cipel ?
Non, pour une raison simple, c'est que le nouveau gouvernement vient d'être installé, le quinquennat vient de commencer et tout n'est pas mis en place, tous les acteurs ne sont pas encore en place. Une partie des acteurs est déjà en place, des principaux, président de la République, gouvernement, mais maintenant nous avons les élections législatives d'ici quelques semaines et à ce moment-là tous les acteurs seront en place après le choix des Français, et à ce moment-là on pourra juger de la politique qui sera mise en œuvre. On sait déjà quel est le premier texte que le gouvernement mettra en débat.
Le pouvoir d'achat.
Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le pouvoir d'achat, pour montrer la préoccupation essentielle, primordiale de cette préoccupation des Français.
Toutes les formations.
Le pouvoir d'achat.
Toutes les formations parlent de pouvoir d'achat.
Il faut qu'on respecte le temps politique. Est-ce qu'on peut un peu respecter le temps politique et le temps réel de la politique ?
Oui, mais ça ne nous empêche pas de débattre, Edouard Dorian Cipel.
Je ne dis pas le contraire. Mais en revanche, ça devrait peut-être nous éviter d'avoir des préjugés sur l'action future du gouvernement. Moi, ce que je sais, c'est que le projet du président est mis en place. Ce qu'il a dit sur ses orientations principales,
il n'y a rien de criminel à avoir des préjugés.
Qu'il a fait, par exemple, la première ministre me semble correspondre au portrait qu'il avait souhaité, quelqu'un d'attaché à la question de l'écologie, à la question sociale et à celle de la production. Maintenant, il y a un gouvernement, les Français pourront juger. On verra le vote des Français. Et moi, je suis inquiet comme vous sur les législatives, sur la participation. Je sens qu'on peut avoir une participation inférieure à la dernière fois, avec moins de 50% au niveau national.
William T, si on part du principe que il y a peut-être moins ou pas autant de convictions dans le programme de Ensemble, parce qu'il n'y a pas que Renaissance, il y a aussi Horizon et le MoDem, que dans et d'autres formations politiques. Est-ce que du coup, il y a une donne qui est vraiment très très différente de celle de la présidentielle, où les gens vont pas forcément se tourner vers les candidats anciennement à LREM.
En fait, Emmanuel Macron est en train de poser petit à petit des bases de ce que c'est que le macronisme d'après lui. Enfin, après lui en tout cas, parce qu'au bout d'un mois, il partira. La difficulté, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels, pour l'instant, il est adaptatif, et c'est normal, parce que le macronisme, au final, ça a que 5 ans d'existence, voire 6 ans si on prend en compte l'année 2016. Et donc, c'est une offre politique qui est nouvelle. Et sur la plupart des sujets, il est en train de s'adapter, notamment, on le voit depuis la question des gilets jaunes. Sur la question du pouvoir d'achat, il adopte finalement des thèses qui sont plutôt consensuelles, c'est-à-dire relance par la consommation en distribuant quelques chèques et en soutenant le pouvoir d'achat des ménages, et qui qu'il avait abandonné.
Ça marche
en
encore,
fait.
Ça
bah, moi, je pense que ça marche pas. Je pense qu'Emmanuel Macron, et c'est pour ça que je suis déçu, c'est-à-dire que sur la plupart des enjeux, nous, on l'a écrit comme texte, on avait écrit avant le second tour de l'élection présidentielle, qu'est-ce que doit être le deuxième mandat d'Emmanuel Macron? Moi, je pense que le rôle historique d'Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron est le président de transition pour que la France puisse enfin passer au 21e siècle. Il a le même rôle qu'en Allemagne que celui qu'avait Gerhard Schröder ou celui qu'avait Tony Blair au Royaume-Uni, voire Bill Clinton aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on doit passer au 21e siècle.
Premier président du 21e siècle, c'est 2027?
Normalement, ça doit être 2027 et Emmanuel Macron doit faire cette phase
de transition. Ça sera peut-être Edouard Dorian Sipel, non? Vous allez peut-être vous présenter.
Et ça veut dire qu'en fait, il doit permettre en fait que la France, qui est l'homme malade de l'Europe, puisse pouvoir se redresser et puisse enfin s'adapter à la mondialisation.
J'ai l'impression qu'il est atterré, Edouard Dorian Sipel.
Non, je réfléchis parce qu'il y a des. Je crois que le débat il est vraiment intéressant si on approfondissait ce chemin. J'ai une vision différente. Je pense en effet que le président Macron est le président dont les Français se sont donné dans un moment historique tout à fait particulier où effectivement les deux forces principales de gauche et de droite étaient épuisées
en fin de vie
si vous voulez ou en fin de cycle,
qui
n'arrivaient plus justement à convaincre les Français et à relever les défis qui étaient devant nous. Emmanuel Macron a réussi à rassembler à partir de ses convictions une force centrale qui permet justement de faire les pas fondamentaux dont le pays a besoin, que le pays a besoin de faire. Moi, ce que je crois, et c'est la raison principale pour laquelle je l'ai rejoint aussi en début d'année, c'est que c'est sa vision sur l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe, ce qu'il appelle la souveraineté. Mmh. Je pense que c'est vraiment la tâche historique.
Ça revient dans les intitulés des ministres, d'ailleurs.
C'est-à-dire rendre notre pays et notre continent le moins dépendant possible des contraintes de l'étranger. Souveraineté, on voit bientôt avec les crises qui vont arriver, alimentaires, énergétiques. Soyons donc autonome le plus stratégiquement possible sur l'énergie, sur l'alimentation, sur l'industrie. Je crois que c'est ça et ça permet de relever et de répondre à toutes les questions que lui amenait tout à l'heure. Répondez comment avoir une éducation, un système hospitalier. Donc on est devant des choix stratégiques et majeurs qui nous sortent un petit peu de ce dans quoi on a grandi nous, une espèce de gestionnite oui. ou d'esprit gestionnaire de la politique comme si l'histoire avait disparu.
Merci beaucoup. On continuera ce débat qui effectivement est passionnant. Merci beaucoup William T. Merci à vous Edouard Dorian Sipel. À 19h15, grand débat sur les hôpitaux. Les soignants n'en peuvent plus. Les personnels sont carbonisés après les années Covid. Et pourtant l'été approche. Comment vont-ils faire? L'hôpital en détresse, grand sujet d'actualité. Ça sera juste après le journal de 19h. À tout de suite sur Europe 1.